Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Du 8 au 11 mars 2018 se déroulera la 13e édition du Festival de Castelier, un événement unique à Montréal voué aux arts de la marionnette. 4 jours incroyables pour découvrir les créations des meilleurs marionnettistes d'ici et d'ailleurs. Au programme cette année, 12 spectacles de marionnettes pour adultes et pour enfants et de nombreuses activités gratuites. Visitez le site festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Le Festival de Castelier du 8 au 11 mars.
Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des Silly d'Or de la musique du monde. Les Silly d'Or, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au Club Balatou. Les Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com.
Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
What's up? Joe RCA, baby, they dead OBs. Et vous êtes à l'écoute de Choc.
Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at?
Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez « La vie est un grand jeu », édition du 6 mars 2018, notre rendez-vous radiophonique bi-hebdomadaire pour parler de droit et de jeux de société. Je suis votre animateur, Jod Léveillé, et bienvenue sur cette deuxième émission. Il y a 2 semaines, j'entamais cette émission en vous parlant du grand contrat général comme un outil, le droit comme un outil qui permet de mieux vivre ensemble. Un contrat social entre nous tous citoyens pour une meilleure vie sociale. Justement, aujourd'hui, je vous parle du droit contractuel et de son encadrement dans le Code civil québécois. Ouais, rien de moins. J'espère que le tout sera un peu plus terre à terre que la dernière émission. Pour nous aider, je vais essayer d'amener plus d'exemples d'application des règles de droit que j'aborde aujourd'hui. Ensuite, on fait le lien avec le jeu Galaxy Trucker par le fameux Vlada Shvatila. Wow! Oui, je sais. Un jeu futuriste ancré dans l'esprit capitaliste et les relations contractuelles. Après tout, le contrat est plutôt central aux dynamiques du capitalisme. Vous en conviendrez, chers auditeurs. Aussi, c'est central aux interactions entre citoyens. Les personnes qui forment la société d'un point de vue plus professionnel, les services qu'on se donne, les relations d'affaires. D'ailleurs, le régime légal du contrat est un vaste domaine du droit civil. Hein. Un chapitre complet du Code civil y est consacré, soit près de plus de 100 sans article, voilà, dans le code. Je prétends pas qu'aujourd'hui je vais faire le tour de tous ces articles-là. D'ailleurs, ce serait pas tellement utile de toute façon, mais je vais faire une introduction aux dynamiques légales entourant cette relation qui est le contrat. En effet, le contrat est comme le tango. C'est plus le fun à deux. Quand on parle de la responsabilité contractuelle, les plus perspicaces auront compris que c'est en fait celle de respecter un contrat auquel on a consenti, mais aussi d'être responsable de nos actions à l'intérieur de cette relation contractuelle. Comme nous sommes au Québec, ce concept est encadré légalement par le Code civil du Québec. Soit dit en passant, le Code civil est en fin de compte une immense loi qui encadre très globalement toutes les situations de droit civil. J'en profite pour souligner la différence entre l'approche du droit civil québécois, qui s'inspire des Français, de l'approche du reste du Canada, en droit civil toujours, inspirée des Britanniques. Rapidement, chez les Français, on fait une loi qui régit le plus de situations possibles. On imagine toutes les situations du monde, puis on fait une loi qui va être capable de répondre à toutes ces questions-là. La loi évolue d'époque en époque selon les valeurs de la société, et notre code civil, nous, s'inspire du code Napoléon, d'abord créé par l'empereur lui-même, et qui s'était lui-même inspiré du droit romain. De leur côté, les Britanniques construisent leur droit à partir de la jurisprudence. C'est-à-dire que les jugements du passé servent de référence pour les jugements à venir. Par exemple, si dans le passé, une personne qui paie pas son loyer s'est vue condamnée à payer son loyer puis à quitter le logement, alors, dans une situation équivalente, aujourd'hui, la Cour doit en venir à la même conclusion. Ça, c'est le principe. Après, on ajoute une panoplie de règles. C'est trop simple, sinon. Notamment en ce qui concerne la hiérarchie de la Cour. La Cour suprême n'a pas besoin de respecter la décision d'une Cour municipale, par exemple. Et n'oublions pas que le concept, c'est « dans la même situation ». Reste à définir ce qui est pareil et ce qui est différent, à la discrétion du juge. Au Québec, on mélange un peu les deux. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, t'sais?
Et si on se faisait une grelottine?
C'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée qu'on appelle, c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit, passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. Parce qu'on ne la joue pas, il attend le tour d'après. Ouais. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas à combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Mais dans le suivant, il annonce une quadrupée. Donc là, elle vaut 68. Il peut contrer ou il se lève.
La base en droit civil, c'est le code. Donc, dans le code civil, on trouve deux principaux articles concernant le contrat. L'article 1377 qui explique à quoi s'appliquent les articles du chapitre sur le contrat et l'article 1458 qui parle de la responsabilité contractuelle. Tiens, je vous en lis un petit bout et on le décortique un peu. Article 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle contracte. Ça, c'est la première ligne. Jusqu'ici, ça va? Sûr? Parce qu'on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire, ça, contracter? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qu'il faut faire? À partir de quand une promesse devient un contrat? Eh bien, déjà, un contrat n'a pas de forme précise, sauf dans certains cas précis. T'sais, ce serait trop simple. Ce que ça signifie, c'est que deux personnes qui serrent la main peuvent constituer un contrat. C'est un contrat de gré à gré. La ligne entre promesse et contrat va être mince dans ce cas-là. Ça laisse place à l'interprétation. Parlons tout de suite de l'interprétation, parce que ça semble très subjectif, mais les juges et les lois répondent au cadre idéologique de la société. Hein? On fait pas ça juste comme ça pour le fun, là. Et ça s'inscrit dans l'histoire de cette société-là. Quand on parle des contrats, il est important de se pencher sur l'histoire et les valeurs qui l'entourent pour bien comprendre comment on perçoit comme société le contrat. D'abord, il faut se rappeler que le droit, comme je vous l'ai dit il y a deux semaines, ou hier si vous avez écouté l'émission en podcast, est une limitation du pouvoir d'agir des individus, de chacun d'entre nous. Oui, c'est impressionnant. À la dernière émission, d'ailleurs, je vous parlais de cette espèce de contrat que nous faisons en tant que citoyens de nous soumettre au cadre de la loi dans le but d'y gagner les effets positifs du groupe, de la société. Eh bien, justement, le contrat entre deux personnes est historiquement perçu comme le résultat de l'acte volontaire de chacun. C'est l'expression la plus pure de la volonté de l'individu et de sa liberté d'action. Autrement dit, c'est l'expression de la chose la plus précieuse des individus, leur volonté. Alors, il ne faut surtout pas empêcher la liberté de chacun, même si ça semble pas cohérent.
Fils de rien, mais toujours, ni paix, sa paix est fière, je n'ai jamais plié. Je cherchais dans l'hiver un carrosse pour l'amour. Quelque chose pour rêver, j'aimais pas m'ennuyer. Je cherchais le destin et un autre chemin que celui de mon père. Cherchais le fil des jours, ne me libérez pas, ne me libérez pas, je m'en charge. Je décide seul si je prends le large. Ne me libérez pas, ne me libérez pas, je m'en charge. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.
Elle nous a chanté « Ne me libérez pas » sur son album « Chanson ». Depuis la montée de l'individualisme, soit vers la moitié du dernier millénaire, le contrat est devenu de plus en plus protégé des ingérences de la part de la classe dirigeante. Dans le contexte de la monarchie, on peut dire que les bourgeois se sont protégés de plus en plus des caprices des rois. C'est l'ambiance médiévale. Vous la connaissez? Ce qui, cette protection d'ailleurs, et quand on pense à Henri IV ou à Louis XIV, c'était pas une si mauvaise idée ça, si vous me le demandez. Mais avec le passage vers la société d'État et les gouvernements du peuple, cette protection est devenue toute puissante et même peut-être abusive. Au début du siècle dernier, le contrat entre deux personnes était pratiquement inattaquable. Et oui, il y a à peine 100 ans, si on vous avait fait signer un contrat sans qu'on vous donne tous les détails, vous savez, les petites écritures là, en bas du contrat, là, c'était tant pis pour vous. Hein? La cour protégeait le contrat à tout prix, la volonté des deux contractants. Vous aviez juste à mieux vous informer ou à ne pas signer. On partait du principe que tout le monde avait le même pouvoir d'action. Au courant du 20e siècle, par contre, les juges ont commencé à prendre des positions différentes, à parler de la bonne foi et de l'équité, et aussi à réaliser que le contrat entre un individu et une grosse compagnie, comme une banque, par exemple, ou une compagnie de voitures, ne se faisait pas tout à fait sur un pied d'égalité. On a vu l'apparition de la loi sur la protection du consommateur qui encadre les relations contractuelles entre le consommateur et les commerçants et précise quelles sont les obligations de chacun, comme par exemple la garantie de base. Ouais, de base, là. Avant, vous achetiez quelque chose qui arrêtait de fonctionner le lendemain, c'était tant pis pour vous. Donc, les cas où le contrat doit respecter une forme précise, comme par exemple un document écrit, ont souvent à voir avec la consommation, quand une personne achète d'une compagnie. Ou encore, il y a l'exemple commun du contrat de location comme le bail de logement. Oui, mais vous vous doutez bien que même si on n'est pas obligé de faire un contrat, vous pouvez en faire un contrat écrit, là. C'est d'ailleurs conseillé si vous voulez garder une preuve de ce que vous avez convenu. Et comme il n'y a pas de forme précise, pas besoin de se casser la tête, il faut simplement penser à y inclure tout ce qu'on veut en termes de conditions et qui a la responsabilité de quoi, dans quelle situation, ce genre de truc-là. Mais attention, vous pouvez pas inclure au contrat une personne sans son accord. Hein? Tout le monde doit savoir qui est sur le même basic, comme on dit.
Pourvu que jamais rien ne vous arrête. Écroulez souvent sous l'amour et sous ses dettes. J'ai bien l'âme à vous envier, mais c'est le cœur qui m'arrête. Car bientôt plus fort que vous viendra se joindre à la fête. La roue tourne et si tombe un des deux, l'autre roule ou s'écroule avec eux. Peine à pédaler pour deux. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la plaine. Te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine, à traîner un fantôme. Toi tu vas dérailler.
Roulez parfois, s'en vont chercher tes mirettes au-dessus de ton épaule, pourvu qu'elles y trouvent une tête. Ton dos s'ennuie de voir filer des armées de pâquerettes et pleure de n'avoir plus personne.
Nous écoutons Seul sur ton tandem par Voyou sur l'album On s'emmène avec toi. Je pourrais revenir sur les formes de contrat une autre fois, d'accord? Pour le moment, de retour à l'article 1458 qui parle de la responsabilité contractuelle. Donc, 1458 nous dit « Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. » C'est simple. « Elle est, pas lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice corporel, moral ou matériel qu'elle cause à son co-contractant et tenue de réparer ce préjudice. Ni elle, ni le co-contractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » Bon, trois choses qu'on va souligner tout de suite, c'est la responsabilité du préjudice, réparer ce préjudice et ne peuvent se soustraire à l'application du régime contractuel. La responsabilité du préjudice, quand on parle de préjudice, il faut comprendre perte. Autrement dit, il faut que la victime puisse soutenir qu'elle a subi une perte en conséquence des actions ou manque d'action du co-contractant. Donc, s'il n'y a pas de préjudice qu'on peut associer au manquement du co-contractant, celui-ci n'a rien à réparer. Vous êtes d'accord? Ça peut sembler logique, mais ce n'est pas partout comme ça que ça fonctionne. Aux États-Unis, disons que cette règle est très étirée et la spéculation est un peu de mise. Hein? J'aurais pu perdre de l'argent, fait que donne-moi de l'argent. Prenons l'exemple de la personne engagée pour transporter de la marchandise d'un entrepôt vers un autre entrepôt. Si la livraison s'est faite en retard, mais que ça n'a causé de perte à personne, parce que disons que c'était seulement de la marchandise en surplus et qu'il n'y avait pas d'employé en surplus engagé cette journée-là, par exemple, etc., etc., difficile de dire qu'il y a eu une perte d'argent, hein? Donc un préjudice à réparer. De la même manière, il faut que le livreur soit responsable de la perte. Par exemple, si la marchandise n'était pas prête au point A au moment de la prendre, difficile de blâmer le livreur pour le retard au point B, Réparation. Qu'est-ce qu'on répare au Québec? La réparation, ça veut dire la remise en l'état de départ. Pas question ici de remplacer votre vieille minoune par une nouvelle voiture parce que notre déneigeur est venu déblayer notre entrée avec un peu trop d'empressement. Encore une fois, ça semble logique, mais dans des régimes à l'idéologie plus punitive, je nommerai personne là, du Sud par exemple, on pourrait argumenter que la leçon doit lui coûter une maison, hein? Ne peuvent se soustraire. Bon, l'idée ici, en gros, est d'assurer que les co-contractants restent responsables et ne profitent pas des régimes de l'État qui sont pas là pour payer la facture. C'est un peu plus dur ici de trouver un bon exemple parce que justement, ici, notre État, à la philosophie sociale, a mis en place plusieurs dispositions pour que les victimes ne soient pas laissées à eux-mêmes pour réclamer leur dû. Mais prenons l'exemple du contractant blessé sur le site de son co-contractant qui a pas pris les mesures nécessaires de sécurité. Ce n'est pas le régime de l'assurance maladie qui va payer pour les frais d'hôpitaux, mais celui de la CSST. Bon, un autre régime étatique, vous me direz, mais le cas de la CSST est spécial puisque justement, les employeurs y contribuent, mais surtout, elle pourra poursuivre l'employeur pour sa responsabilité. Ah. Il reste beaucoup de choses à dire sur le régime du droit du contrat, mais je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui. Un jour, je reviendrai sur des notions importantes comme la bonne foi et l'équité, hein, l'interprétation du contrat, qui font maintenant une partie intégrante du Code civil. Et passons maintenant à la partie ludique de l'émission, Galaxy Trucker. Entre le droit et Galaxy Trucker, le lien, c'est le contrat. À mon émission précédente, je vous disais que le droit en soi est en quelque sorte un contrat social, mais il y a bien entendu une importante différence entre le contrat social et le contrat abordé aujourd'hui. Dans Galaxy Trucker, on offre un peu des deux. Le contrat moral entre les joueurs qui s'engagent à ne pas tricher comme joueurs, particulièrement dans la première partie du jeu, je vous l'explique plus tard, où la bonne foi des joueurs est très importante. Et, bien sûr, la relation contractuelle à la base du jeu. Dans l'univers du jeu, là. Une relation contractuelle qui ne respecte pas tout à fait les principes de notre code civil. Je suis pas sûr qu'un juge accepterait les conditions du contrat avec Corporation Incorporated. Suivez-moi à bord de Galaxy Trucker sur les ondes de choc, après avoir écouté la chanson Beam Me Up de Django Django sur leur album Marble Sky. Dans Galaxy Trucker, chaque joueur incarne un ambitieux mais pauvre pilote qui signe un contrat avec la compagnie de construction Corporation Incorporated. Pourquoi faire compliqué, tu sais? Notre prestation consiste à piloter un vaisseau composé de matériaux de construction jusqu'aux confins de l'univers connu. Nous avons aussi comme obligation de construire ce fameux vaisseau. De son côté, Corporation s'oblige à nous payer en fonction de la vitesse à laquelle nous livrons les vaisseaux matériaux et dans quel état. Si on tombe sur des opportunités de profit en chemin, à nous la fortune! Vous me suivez toujours? Bon, autrement dit, voici comment le jeu se déroule. Dans un premier temps, chaque joueur devra se construire un vaisseau et, dans un second temps, piloter leur création jusqu'à destination. Ces deux étapes constituent une manche et une partie est composée de trois manches. Donc, on fera trois vaisseaux et trois voyages durant une partie. Chaque manche dure environ 20 minutes. Un des points forts du jeu, c'est que les joueurs jouent en même temps. Il n'y a pas de tour, pas de moment d'attente pendant que les joueurs sont en train de finir leur action. Dans la première partie, chaque joueur reçoit un plateau qui représente une forme de vaisseau composé de plusieurs espaces carrés sur lequel qui représente les tuiles de matériaux. Hein? Ces fameuses tuiles carrées ont un nombre de connecteurs allant de 1 à 4 et permettant de les connecter à une tuile déjà sur le plateau du vaisseau. Tous les joueurs commencent avec une tuile cabine pilotage déjà placée au centre du plateau. On doit donc se construire un vaisseau en commençant depuis son centre et en fonction des connecteurs disponibles. Pour ajouter au casse-tête, Vladash va-t-il à penser à ajouter des formes de connecteurs différents? Simple, double, universel. Et vous l'aurez deviné, les deux premiers nécessitent un connecteur identique, bien sûr, ou un connecteur universel. Bon, jusqu'ici, c'est un sympathique casse-tête, mais me direz-vous, pourquoi se casser la tête? Ouais. Eh bien, les différentes tuiles ont aussi une fonction dans le vaisseau. Réacteur, fusil, cargo, cabine de passagers, accumulateur d'énergie seront tous très utiles dans le cas où est-ce qu'on doit affronter les dangers de l'univers et profiter des opportunités pour s'enrichir. Mais ce qui vient vraiment ajouter du piquant, c'est que l'assemblage est en fait une course. Le premier à finir part en avance. Et vous vous souvenez, le but, c'est d'arriver le plus tôt possible pour être payé le plus cher possible. Et en plus, ce joueur-là, on peut mettre la pression sur les autres en tournant un sablier. Quand le sable est écoulé, fin de la construction, peu importe l'état des vaisseaux. Est-ce que je vous ai dit que toutes les pièces au début de la partie sont face cachée et on peut utiliser qu'une seule main pour les tourner? Et si au moment de partir, un connecteur donne sur le côté d'une tuile sans un autre connecteur, la tuile devra être enlevée avec toutes les tuiles qui en dépendent pour rester connectée au vaisseau. Toutes les pièces seront considérées des pertes et Corporation Incorporated nous les fera payer à la fin de la manche. En plus, les collecteurs qui sont laissés ouverts pourraient coûter des jours de voyage dans la deuxième partie. Justement, c'est le temps de décoller et de livrer les matériaux nécessaires à la colonisation du bout de l'univers. Dans la deuxième partie, c'est assez simple. Chaque joueur se positionne selon l'ordre dans lequel ils ont terminé leur construction de vaisseau sur une piste de voyage qui sert à garder le compte de l'ordre des vaisseaux. Le joueur le plus avancé tourne une à une les cartes d'un paquet formé au hasard qui correspondent à des événements s'abattant sur les pilotes. Météorites, pirates, contrebandiers, vaisseaux ou stations abandonnées, planètes, tempêtes, poussières cosmiques, batailles cosmiques et j'en passe, tout peut arriver dans l'espace. Une fois le paquet de cartes écoulé, ça marque la fin du voyage et le moment de passer à la caisse, si le pilote a survécu bien sûr ou ne s'est pas perdu dans l'espace intersidéral. Et maintenant, mes impressions. Galaxy Trucker est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, mais qui peut s'avérer un vrai défi intellectuel. Les points forts du jeu sont la simplicité des règles et l'absence de temps d'attente. C'est un bon jeu d'introduction parce qu'assez simple, et en plus, les règles incluent une version simplifiée pour la première manche. Comme ça, pas trop d'informations la première fois qu'on rencontre le jeu. Par contre, le jeu peut sembler redondant, puisqu'une partie, en fait, est trois fois la même chose. Et même si, lors des manches suivantes, là, on construit un plus gros vaisseau, puis le voyage est plus long, plus ambitieux, il y a plus de choses extraordinaires qui nous arrivent, ça reste assez similaire. En plus, le concept de jeu peut parfois déplaire, parce que on peut l'écrire comme un construit et subi. La première partie de chaque manche, on construit un vaisseau, et la deuxième, on subit presque passivement les affronts du voyage intersidéral sur notre belle création. Et ça prend un certain sens de l'humour pour regarder le vaisseau qu'on vient de construire sous pression, se faire détruire par des météorites et des pirates. D'ailleurs, les concepteurs du jeu ont pris soin d'introduire beaucoup d'éléments d'humour dans le jeu. En bref, un chouette jeu qui peut parfois être redondant malgré les efforts de l'auteur, et je lui donne un 7 sur 10 pour son côté plaisant, mais souvent répétitif. Et voilà qui clôt cette édition du 6 mars 2018 de La vie est un grand jeu sur les ondes de choc. J'espère que j'ai su éclaircir un peu les mécaniques de la responsabilité contractuelle du point de vue de la philosophie derrière ce pan du droit.